RFI.
RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Fanny Pigeot, journaliste indépendante, Vincent Jeu de l'Express. Au sommaire, le Gabon. Le 30 avril, la Cour constitutionnelle a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'institution entend ainsi mettre un terme au vide constitutionnel né du non-renouvellement de l'Assemblée nationale depuis 2016. L'opposition dénonce une violation de la Constitution, la Cour constitutionnelle ayant outrepassé son mandat. Côte d'Ivoire, incarcéré à La Haye depuis 2011, Laurent Gbagbo restera en prison jusqu'à la fin de son procès. Pour la 11e fois, la CPI a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense. Ni l'âge, ni l'état de santé de l'ancien président n'ont plaidé en sa faveur, la Cour estimant qu'à La Haye, il recevait un traitement optimal. Je vous propose pour commencer d'écouter la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Boranzo, surnommée par ses compatriotes 3M.
Dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Les fonctions du gouvernement en place cessent par la démission présentée par le Premier ministre dès notification de la présente décision au président de la République. Le président de la République doit nommer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement qui ne sera responsable que devant lui. Les fonctions de ce nouveau gouvernement, qui est exempté de la présentation d'un programme de politique générale devant le Sénat, prennent fin à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale. Article 4. Une fois la mise en place du Centre gabonais des élections achevée et le serment des membres de son bureau reçu, la Cour constitutionnelle, saisie par le président du Centre gabonais des élections, fixera les nouveaux délais d'organisation des élections des députés à l'Assemblée nationale.
Hassan Diop, cette décision est inédite et elle permet à la présidente de la Cour d'affirmer son autorité, elle qui est accusée d'être proche du pouvoir, mais est-ce conforme à la Constitution ?
En tous les cas, c'est une autorité exorbitante. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais si l'on se réfère à la règle de la séparation des pouvoirs, j'estime que la Cour constitutionnelle, donc qui est la juridiction suprême aujourd'hui du Gabon, qui incarne donc le bras de la justice, a usé de pouvoir exorbitant à l'égard à la fois des députés et de ce gouvernement, c'est-à-dire vis-à-vis de l'exécutif, du pouvoir exécutif et vis-à-vis du pouvoir législatif. D'ailleurs, il y a un opposant, Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, qui dénonce un coup d'État institutionnel. Coup d'État institutionnel, on est effectivement tenté de le dire, car c'est vraiment sans précédent de voir dans un État de droit, ou en tout cas un pays qui se réclame d'un État de droit, une pareille farce constitutionnelle. Par ailleurs, moi je dirais plutôt un coup politique, parce qu'on voit l'une des actrices de la présidentielle controversée d'août 2016 apparaître à nouveau, nous dire « voilà, on n'a pas respecté les délais, alors pourquoi maintenant ?» Pourquoi avoir décidé d'évincer ce gouvernement maintenant ? Farce supplémentaire, c'est le même
après
Premier ministre.
Après
deux reports de législatives, farce supplémentaire. Deux jours après, on nous apprend que c'est le même Premier ministre qui a été renommé. On attend de voir le gouvernement pour savoir si beaucoup de ministres vont recouvrer leur place, etc. Donc franchement, je pense que la finalité de cette opération, il n'y a pas d'autre terme, c'est un coup politique. Qui arrange qui ? On est tenté de dire le pouvoir exécutif, c'est-à-dire Ali Bongo himself, dans la mesure où il se débarrasse, non pas de manière frontale, mais par cour constitutionnelle, en passant par la cour interposée, il se débarrasse effectivement des députés, il pourra compter ses troupes entre les récalcitrants, parce qu'on sait que le PDG est divisé par plus aujourd'hui, et fracturé de dissensions, et ainsi peut-être mieux aborder les législatives, qui sont des législatives à risque, après cette présidentielle controversée que l'on connaît.
Vincent Lejeu, on est toujours dans la logique de la révision constitutionnelle de l'année dernière.
On peut même remonter un peu plus loin. Après le simulacre électoral de 2016, la pantalonnade institutionnelle 2018. Et tout ça, évidemment, contribue à ce phénomène de monarchisation du pouvoir qui a été sacralisé par la nouvelle constitution que, au fond, on met en pratique en rythme accéléré. Puisque, comme le disait à juste titre Hassan à l'instant, eh bien, Ali Bongo Ondimba a devant lui maintenant le Parlement dont il rêve, un Parlement à sa botte puisqu'il gardera de toute façon la haute main sur les investitures à venir, et puis un Parlement qui est responsable devant lui et lui seul. Mais on saisirait mal les dessous de ce traquenard si on ne connaît pas un peu le casting. On sait à quel point au Gabon, l'intime et le politique sont inextricablement liés. Troisième, Marie-Madeleine Boransuo, c'est certes une juriste bardée de diplômes, c'est aussi d'ailleurs, on le sait moins, une ex-miss Franceville, capitale du Haut-Ogooué, le fief des Bongos. Mais elle ne doit pas à ses talents de reine de beauté sa trajectoire, elle le doit effectivement à son parcours universitaire. Elle est passée par la Sorbonne, elle est passée également par Aix-Marseille 3, où, rappelons-le, en 2002, elle publie une thèse consacrée aux cours constitutionnelles africaines et à l'état de droit. Et qui dirige cette thèse? Un certain Charles Debbache, ce grand virtuose du bricolage des lois fondamentales, qui sévit aujourd'hui à Lomé au Togo, comme conseiller spécial avec rang de ministre de Fornia Singbe.
Il n'y a pas de hasard. Le manuel a toujours cours dans les universités françaises.
Bien entendu, c'est une bible, pensez bien. Et puis, n'oublions pas aussi, il faut dire les choses très simplement, Marie-Madeleine Boransuo fait partie des innombrables compagne du défunt président Omar Bongo, dont elle a eu deux enfants d'ailleurs, et comme tout est mêlé, l'un de ses enfants, qui se prénomme Fabrice Bongo, vient d'accéder à la dignité de directeur général du budget et des finances. Bon. Alors, quand on nous explique que c'est une manifestation d'indépendance, enfin, c'est de la rigolade. Évidemment, non. Tout ça atteste d'une complicité parfaite. Alors, on se souvient, effectivement, elle avait un peu tensé Ali Bongo en retoquant quelques ordonnances sur la magistrature lors de son premier mandat, ou bien en lui rappelant que l'usage des hélicoptères, des moyens de l'État en campagne électorale, ça faisait un peu tâche, etc. Mais non, en réalité, elle s'est... À qui profite le crime institutionnel ? Il profite à cet exécutif qui concentre les pouvoirs. C'est d'une limpidité cristalline.
Fanny Pigeot, quelle marge de manœuvre pour l'opposition gabonaise ?
Bonne
dans
question.
Ce vide constitutionnel.
Bonne question. Est-ce que d'ailleurs cette opposition, elle est vraiment unie? C'est aussi l'une des difficultés pour avancer. Voilà, ça, on l'a vu en 2009, c'était très compliqué au moment de la première élection présidentielle qui a vu Ali Bongo se faire élire. L'opposition s'est complètement délitée. Enfin voilà, il n'y a plus d'union. Donc voilà, pour la suite, je peux pas faire de pronostic, mais ça reste compliqué. Voilà, on reste dans un pouvoir PDG finalement, un fonctionnement qui est le prolongement de tout ce qui s'est passé.
Le PDG, c'est un pouvoir clanique, hein, parce que comme disait Vincent, c'est
oui,
le Haut-Ogooué.
Et puis dans ces changements, on se demande à quoi sert aussi un centre gabonais des élections qui succède à une commission électorale présumée indépendante. Est-ce que ce centre gabonais des élections va être beaucoup plus indépendant? J'en doute. Déjà, au niveau de la représentation, il est prévu qu'il y ait 10 représentants de la majorité, de l'actuelle majorité, et puis 5 représentants de l'opposition. On voit rapidement le déséquilibre. Je ne sais pas comment va fonctionner les votes et comment ça sera entériné, etc., etc., ou les conclusions de ce centre. Mais tout ça, finalement, ne fait que nourrir les suspicions sur ce pouvoir, encore une fois, contester, en tous les cas, la réélection contestée d'Ali Bongo. Et ce n'est pas une bonne façon, à mon avis, d'aller vers des élections législatives apaisées.
Qui sont reportées sine die, du reste. Hein,
oui, alors, sur toute vraisemblance, maintenant que les règles du jeu sont conformes à ce que souhaite le palais du bord de mer, je pense qu'on peut imaginer, envisager des élections assez rapides. Mais, au passage, d'ailleurs, la composition de ce qui succède à la CENAP, l'ancienne commission électorale, est aussi un instrument, un outil pour enfoncer un coin encore entre les deux familles de l'opposition. Et il faut reconnaître d'ailleurs à Ali Bongo une certaine habileté. Il mise depuis le début sur l'usure de l'opposition et sur la fracture. On sait très bien, et c'est le cas, qu'il y a toujours dans ce cas-là une division entre un noyau radical autour de Jean Ping et ceux qui souhaitent retrouver une dignité, un poste, une fonction et les avantages afférents. J'ajoute deux points quand même qui n'ont pas été, à mon avis, suffisamment soulignés. Pour une éminente constitutionnaliste comme Madame Boransuo, il y a quand même quelque chose d'incroyablement baroque dans le fait, par exemple, de transférer les prérogatives de l'Assemblée nationale au Sénat. Ça, jamais vu, nulle part. C'est assez formidable. Et j'ajoute un dernier point, c'est que elle dit et c'est le prétexte invoqué que l'Assemblée, ce qui n'est pas faux, n'a pas été capable de respecter l'échéance du 30 avril pour la convocation législative. Mais rappelez-moi qui a à deux reprises prorogé le mandat des députés. La Cour constitutionnelle. Donc franchement, de qui se moque-t-on ?
Et puis surtout, on ne va pas vers des élections législatives apaisées, voire crédibles, ça j'en doute.
La Côte d'Ivoire, condamnée en janvier dernier à 20 ans de réclusion par la justice ivoirienne, Laurent Gbagbo, transféré à la Haye depuis 2011, restera en prison. Un énième refus de la CPI, alors que pour la défense, rien ne justifie la détention de l'ancien président ivoirien, Hassane Diop.
Oui, voilà, 13e refus de remise en liberté provisoire ou remise en liberté définitive. 7 ans de détention, on l'a dit. Un procès qui est suspendu depuis janvier 2018, du fait que des magistrats avait estimé que le dossier d'accusation méritait d'être étoffé. Et puis, donc, ce dernier rejet qui intervient et qui a été d'ailleurs sous-traité médiatiquement, peut-être d'ailleurs parce que aujourd'hui, le cas Gbagbo est devenu une sorte de routine. Et je trouve que cette fausse routine résulte aussi peut-être, la défense a une part de responsabilité. Comment voulez-vous, pour une 13e demande, donc ça fait 13 fois, pour demander la libération de votre client, avancer comme argument son état de santé
et son âge,
au lieu de s'attaquer au fond du dossier ou à des distorsions au niveau du dossier, ou même invoquer le procureur qui l'avait inculpé, qui s'appelle Ocampo, et on a découvert au fil d'enquête que ce monsieur n'était pas si blanc que ça, et a instrumentalisé même, au moment où il y était, la CPI, et après son départ, la CPI. Voilà un motif qui méritait également une demande de remise en liberté, mais jamais la défense n'a utilisé ces informations qui ont quand même fait la une d'un certain nombre de médias. Non, on invoque l'état de santé de Monsieur Gbagbo. Évidemment, les magistrats ont fait appel à une commission qui a statué, une commission médicale. On n'a pas de raison de douter de ce que dit cette commission. Et puis, une fois que ce rejet a été annoncé, l'un des avocats conseils, mais qui ne dépend pas de la CPI, qui s'appelle Maître Habiba Touré, sans doute assigné à la communication, nous dit qu'elle est en colère car c'est de l'acharnement judiciaire. Non mais attendez, c'est une réaction bateau, ce n'est pas une réaction, à mon avis, à la hauteur de ce dossier et à la hauteur du destin de ce monsieur. Donc on est en droit de se demander à quoi joue la défense de Laurent Gbagbo.
Vincent Jeu, la CPI, pour expliquer son refus, elle dit qu'elle suspecte les supporters de Laurent Gbagbo d'organiser sa fuite et de l'inciter à se soustraire aux poursuites.
Ce qui me paraît hautement improbable, je pense que Laurent Gbagbo souhaite faire droit à la thèse qui est la sienne. Et donc je l'imagine mal aller se planquer hors de portée de la Cour. Mais vous savez, au-delà du dossier Gbagbo, cas d'école s'il en est, ce qui est tragique dans cette affaire, c'est que ce qui restera de cette séquence, c'est un fiasco judiciaire. Et que donc cette Cour pénale internationale, donc domiciliée à La Haye, aux Pays-Bas, est déjà suspectée par une partie significative de l'intelligence africaine de délivrer une justice de vainqueur, d'être partiale dans ses incriminations. Et voilà qu'en plus, elle montre une carence en termes de professionnalisme qui est absolument sidérante. On devrait avoir là la crème de la crème des magistrats et des juristes du monde. Or, qu'est-ce qu'on a de l'amateurisme dans le camp de Laurent Gbagbo, mais aussi de Charles Blégoudé d'ailleurs, et de l'amateurisme chez la procureure et ce... Au fond, on a quand même une période, c'était, je le crois me souvenir, en 2013, où déjà deux juges sur trois de la chambre préliminaire dans sa composition de l'époque étaient favorables à la mise en liberté, évidemment provisoire, de Laurent Gbagbo.
Ouais.
Quel est le cœur de la question? Le postulat qui avait été adopté par Moreno Ocampo, puis repris par Fatou Bensouda, c'est il y avait un plan délibéré, orchestré, organisé de maintien au pouvoir, fût-ce au prix de... Il y a eu des violences meurtrières qui doivent être jugées pour tel. Mais à ma connaissance, et en dépit de l'année de rab qui lui a été accordée voilà peu, Fatou Bensouda n'a jamais été capable de démontrer l'existence de ce fameux plan politique, de cette stratégie délibérée. Donc, à partir de là, il faut en tirer les conclusions.
L'autre partie n'a jamais été entendue, du reste, dans cette crise ivoirienne.
Et la conclusion, à mon avis, c'est que s'il y a une chose qui est politique, en revanche, et qui est incontestablement politique, qui déborde du cadre ivoirien, c'est le fait que Laurent Gbagbo se soit retrouvé à la CPI. Là, on voit bien que c'était manifestement orchestré politiquement, à la fois à l'avantage d'Alassane Ouattara, c'est incontestable, et à l'avantage aussi de ceux qui avaient contribué à la chute de Laurent Gbagbo.
C'est peut-être d'ailleurs le stratagème qui permettra à la procureure de s'en sortir à peu près honorablement. C'est sa fameuse clause de ce qu'on appelle le « no case to answer » qui en fait équivaut effectivement à un non-lieu.
Elle l'avait appliqué au
Soudan,
d'ailleurs. C'est
que si on lit entre les lignes de l'arrêt qui a été rendu par les juges de la Chambre, elle est quand même invité à réviser sa copie.
Hassan Diop, qu'est devenue l'initiative qu'avaient prise certains chefs d'État africains pour demander justement la liberté provisoire de Laurent Gbagbo?
Oui, je ris, et malheureusement, enfin, il s'agit d'une histoire sérieuse, mais c'était pas du tout sérieux comme attitude. On n'attend pas d'aller plaider la cause de Laurent Gbagbo auprès de François Hollande, membre de l'Union.
Ce qui montre bien que c'est complètement politique, cette affaire.
Voilà, ce qui montre encore une fois que c'est complètement politique, quand bien même François Hollande, sans doute, a dû botter en touche en disant, vous savez, c'est une affaire judiciaire, je m'en mêle pas, etc. C'est un procès. Mais il n'empêche que cette démarche avait été médiatisée, mais cette démarche est une démarche de la 25e heure. Elle est arrivée trop tard. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait manifester effectivement que la raison de la présence de Laurent Gbagbo à la Haye est une raison politique.
Fanny Pigeau.
On peut parler de scandale judiciaire aujourd'hui à propos de ce qui se passe à la Haye. C'est quand même ahurissant de voir tout ce qui se passe. Il n'y a rien. Et puis aussi, je voudrais souligner l'absence totale de suivi de la part des médias français, alors qu'on est sur un cas absolument exceptionnel qui implique les autorités politiques françaises, l'armée française, qui jouait un rôle absolument majeur en 2010 et en 2011. Et là, silence radio, alors qu'on est face vraiment à un scandale énorme.
Ce qu'on a vu également ces derniers mois, Vincent Hugeux, c'est que de nombreux hommes politiques ivoiriens sont allés à la Haye rendre visite à Laurent Gbagbo.
Oui, mais alors, tout cela n'est jamais chimiquement pur, puisque il y a des calcul de trajectoire personnelle. Si l'on prend par exemple la fracture du Front Patriotique Ivoirien, du FPI, Front Populaire Ivoirien, pardon, le FPI, on voit bien qu'entre le président officiel, Pascal Affine-Guessant, et les gardiens du dogme, eh bien, il y a une volonté de se placer et d'avoir la caution du grand homme pour se projeter dans l'avenir. Certains considérant qu'il faut clore ce chapitre, d'autres qu'il doit continuer d'incarner un pouvoir injustement écarté du palais. Mais vous savez, par rapport à tous les procès qui ont été intentés, à tort ou à raison, à la CPI, il y avait là une fenêtre de tir absolument formidable pour faire litière de ces griefs. Et hélas, et c'est encore une fois tragique pour l'avenir, la CPI a été incapable d'écarter le spectre de l'influence politique.
Elle a été instrumentalisée, en fait.
Et puis, il y a aussi ce qui a été dit déjà sur ce plateau, c'est que le ver est dans le fruit depuis le début. C'est-à-dire que moi, le fait que Laurent Gbagbo soit au centre pénitentiaire de Scheveningen, je ne pense pas que ce soit un scandale planétaire. Le scandale planétaire, c'est que dans la cellule d'à côté, il n'y ait pas au moins l'un des caïds du système Ouattara, qui ont eux aussi commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et que cette dissymétrie judiciaire a d'emblée empoisonné avec une toxicité formidable toute hypothèse de réconciliation des Ivoiriens entre eux. Donc, vous voyez, très au-delà du cas de Gbagbo, que ce soit sur la justice ou sur le devenir politique de ce grand pays d'Afrique, eh bien, je pense qu'on a loupé une occasion absolument unique.
Le contresens, à mon avis, le contresens d'une mauvaise influence de Gbagbo sur la situation politique interne, le risque, c'est pas de le remettre en liberté, c'est de le garder là-bas, de le garder à la Haye, en dépit du vide du dossier d'accusation. Et donc, par conséquent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait le voyage de la Haye comme on va... comme on fait un pèlerinage à la Mecque ou toute proportion gardée, ou à Rome, voilà.
On rappelait au début de cette actualité ivoirienne, Fanny Pajot, que Laurent Gbagbo avait été condamné l'année dernière par la justice ivoirienne à 20 ans pour le braquage de la BCAO.
Parce qu'on dit braquage, là aussi c'était un dossier qui malheureusement n'a pas été étayé de preuves. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe avec la justice ivoirienne est aussi très problématique sur un certain nombre de dossiers. Bon, alors effectivement sur le cas dont on parlait du camp Ouattara. Il y a des enquêtes qui sont menées par la CPI. De ce que je sais, il y a une envie de certains acteurs à la CPI de se redonner une image un peu positive et donc d'aller dans un sens d'enquête sérieuse. Sur
la... C'est la fin de l'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Fanny Pigeot de Journaliste Indépendante et Vincent Eugeux de L'Express. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique.